Où va l'industrie ? Un podcast PTC.
Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, qu'est-on en droit d'attendre d'elle ? Comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque ? À travers ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0. Ensemble, découvrons l'impact de ces nouvelles approches et de ces technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Parce qu'en effet, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur pour agir au présent par PTC.
Selon une étude de PwC en 2023, le logiciel représentera 60% de la valeur d'une voiture d'ici 2030. Ce chiffre illustre un changement radical en train de s'opérer au sein d'un bon nombre d'industries traditionnelles qui désormais intègrent à leurs produits une composante logicielle, autrement appelée les logiciels embarqués. Désormais, la course à l'innovation et à la performance se situe avant tout sur la dimension technologique. Pour bien comprendre ce phénomène, il s'agit d'abord de cerner les nouvelles stratégies de ces industries qui doivent gérer à la fois leurs produits physiques, les composants matériels et les logiciels embarqués associés. Ensemble, nous explorerons comment ces industries adaptent leurs processus et leurs talents pour répondre aux attentes du marché. Enfin, nous caractériserons les grands challenges auxquels ces industries font face pour inventer les voitures de demain ainsi que de nouvelles générations de trains, d'appareils médicaux, de drones. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Xavier Dessault, Sales Representative ALM chez PTC. Bonjour Xavier.
Bonjour Cathy.
Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. Je vous propose de vous présenter.
Donc, je suis Xavier, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie et la technologie. Donc, j'ai travaillé dans différents secteurs logiciels, plateformes et plus récemment aussi des drones autonomes qui volent sans pilote, qui sont fabriqués en France. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai rejoint PTC pour le segment ALM. Donc, on en parlera peut-être pendant le podcast.
Alors, maintenant que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux, concentrons-nous sur la thématique du jour, que sont les logiciels embarqués. Et afin d'éviter toute spéculation ou imprécision, pouvez-vous, Xavier, s'il vous plaît, nous définir ce que sont les logiciels embarqués ?
Très bien. Ouais, donc les logiciels embarqués, c'est, pour vous donner une image qui parle à tous, c'est un peu le cerveau d'un équipement ou d'un composant hardware qui va lui permettre d'effectuer une tâche précise, une ou plusieurs tâches précises. Donc, on en a un peu partout autour de nous. Hein. Donc, c'est dans les appareils électroménagers, c'est aussi dans des équipements plus perfectionnés comme l'automobile, l'aéronautique, donc les avions, et aussi dans certains équipements ou dispositifs médicaux. Typiquement, un exemple de logiciel embarqué, c'est ce qui va vous permettre de contrôler le freinage dans une voiture, donner la bonne intensité au freinage pour que le véhicule puisse s'arrêter. C'est aussi le train d'atterrissage pour un avion. Donc là aussi, vous avez besoin d'un logiciel pour déclencher ce train d'atterrissage au bon moment. Tout ce type d'actions qui sont opérées par le logiciel sur un équipement, c'est induit par le logiciel embarqué.
Et donc, qui dit logiciel dit ligne de code. Vous auriez quelques chiffres à nous partager, en fait, sur ces logiciels embarqués ?
Oui, alors effectivement, il y a un chiffre qui est assez frappant, qui va parler à tout le monde. Aujourd'hui, si on parle d'un véhicule récent, typiquement une Tesla ou un véhicule électrique, on a jusqu'à 100 millions de lignes de code. Et ça, il faut le comparer avec un avion de ligne, vous avez 30 millions de lignes de code. Donc ça donne la complexité en fait des nouveaux produits qui nous entourent, notamment dans l'automobile, avec des véhicules, un concept particulier qu'on nomme le software defined véhicule. Qu'est-ce que c'est ? C'est si vous comparez avec un véhicule traditionnel qui sort de l'usine, sur lequel il n'y a aucune évolution une fois qu'il est sorti de l'usine, une fois que vous l'avez entre vos mains, un software defined véhicule va évoluer à travers le temps. Donc, son cycle de vie sera, entre guillemets, indéfini. Et vous aurez des nouvelles fonctionnalités. Le véhicule va s'adapter à votre conduite, va vous proposer aussi des nouvelles applications qui pourraient avoir un intérêt pour vous tout au long de sa vie. Ouais.
Alors, à la manière d'un logiciel, finalement, qu'on fait évoluer en termes de version.
Exactement, un peu comme un smartphone qui va évoluer avec des applications. Le véhicule tel que défini par ce concept va aussi évoluer à travers le temps, tout à fait.
Alors, effectivement, vu sous cet éclairage, on comprend bien à quel point le logiciel embarqué devient un élément central. Et finalement, il va désormais devenir comme un facteur de différenciation et d'innovation pour toutes ces marques, ces gammes de modèles, dans une industrie comme l'automobile, qui avait plutôt tendance à se concentrer sur tout ce qui était aspect mécanique, performance de moteur ou esthétique.
Ouais. Oui, tout à fait. Ça a aussi un impact sur la sortie des produits. C'est-à-dire qu'un véhicule standard, il fallait plusieurs années avant de sortir un véhicule. Et puis, une fois qu'il était sorti, bien, vous faisiez en sorte de le vendre. Aujourd'hui, un software defined véhicule, il va sortir et il va évoluer à travers le temps. Donc du coup, c'est des sorties, des lancements de produits qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides. Et on le voit aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs européens ou asiatiques qui sortent des véhicules qui n'étaient pas connus avant ou qui n'étaient pas des constructeurs traditionnels.
Vous nous avez beaucoup parlé de l'industrie automobile, mais je voulais savoir, est-ce que potentiellement ces logiciels embarqués s'étendent aussi à d'autres secteurs de l'industrie ?
Oui, tout à fait, oui. Donc, vous avez des secteurs comme tout ce qui est mobilité en sens large, donc les trains, l'aviation, l'aéronautique, utilisent beaucoup ce type de logiciel hein, pour contrôler la navigation, contrôler le pilotage, pour apporter beaucoup plus de sécurité à ces moyens de transport. Vous avez aussi la défense qui utilise ce type de logiciel pour rendre plus autonome un drone, par exemple, un véhicule terrestre, un sous-marin. Et puis le dernier exemple aussi qui est marquant pour tout le monde, je pense, c'est tout ce qui est santé, donc les dispositifs médicaux. Vous avez de plus en plus de logiciels embarqués, donc soit dans les équipements que vous pouvez trouver dans les hôpitaux, soit des équipements que vous pouvez aussi avoir chez vous pour mesurer typiquement votre fréquence cardiaque. Donc les montres connectées sont un bon exemple.
Donc finalement, pour toutes ces industries, j'ai l'impression que le logiciel embarqué est vraiment critique, puisqu'en fait, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il gère le freinage d'une voiture, potentiellement le pilotage automatique des avions ou le contrôle de la santé des patients. Mmh. Et justement, quels sont les principaux enjeux technologiques qui sont liés à ces logiciels embarqués et à leur utilisation en fait ?
Donc parmi les enjeux, effectivement, il y a des enjeux de performance et de fiabilité. Donc performance, vous imaginez effectivement un système de freinage. Il faut que le freinage se déclenche au bon moment. Donc c'est quand même des éléments critiques. La fiabilité, c'est aussi d'avoir des logiciels qui sont capables d'être performants même avec des conditions extrêmes comme des interférences ou des conditions climatiques qui pourraient être particulières. Donc on a aussi un besoin d'interopérabilité, donc les systèmes doivent fonctionner avec d'autres technologies. Ils doivent aussi pouvoir être capables d'être déclenchés à distance comme le GPS.
D'accord. On parle aussi beaucoup de cybersécurité, j'imagine, non, dans cette industrie de logiciels
embarqués. Bien sûr, oui. Là encore, je pense que tout le monde peut s'imaginer la criticité d'un véhicule autonome ou semi-autonome qui viendrait à se faire hacker par des pirates informatiques. Donc là, il y a des normes très strictes de cybersécurité pour ce type d'équipement.
Un des enjeux aussi majeurs, me semble-t-il, actuellement, c'est tout ce qui est en termes de consommation d'énergie. Ça pose une vraie problématique pour ces logiciels embarqués ?
Oui, alors c'est plus en fait un atout, puisque par exemple, on a des constructeurs comme Alstom qui proposent des systèmes de traction avec des logiciels embarqués qui vont permettre des économies allant jusqu'à 30%, si mes souvenirs sont bons, 30% de consommation d'énergie sur des trains. Donc c'est aussi un moyen, ces logiciels embarqués, d'optimiser la consommation d'énergie. Donc ça va dans le sens du temps et dans tout ce qu'on... Dans tout ce qu'on décrit, la sustainability et d'autres programmes qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone. Oui.
Vous aviez évoqué aussi cette notion de software-defined vehicle, où voilà, il y avait plusieurs versions où la voiture continuait d'évoluer à sa sortie d'usine. Donc là, j'imagine qu'il y a peut-être aussi une notion de traçabilité.
Oui, alors c'est effectivement un point commun à tous les équipements qui utilisent ce type de logiciel. C'est très important de pouvoir garder la traçabilité des codes, des lignes de code qui sont insérées dans les équipements. Et c'est même demandé par certains standards et certains organismes qui contrôlent ce type d'équipement. Donc il faut pouvoir garder la traçabilité de bout en bout, de la première vie du projet jusqu'à la fin de vie ou la sortie du produit.
Donc à travers cette liste, on voit bien qu'effectivement les enjeux sont extrêmement importants et que les industriels finalement doivent apprendre à maîtriser. Alors justement, n'est-ce pas compliqué pour des industries dites traditionnelles d'effectuer cette bascule vers les systèmes embarqués, leur intégration, leur gestion, potentiellement même peut-être leur développement?
Oui, tout à fait. Ça dépend des secteurs et il y a une transition qui se fait plus ou moins rapidement. Mais au-delà de l'aspect technologique, il y a aussi un aspect humain. Donc, au sein d'organisations qui étaient peut-être plus orientées vers de l'ingénierie mécanique, on a aujourd'hui une forte croissance des départements logiciels. Un exemple, par exemple, le directeur technique de Stellantis. Et d'abord passé par Microsoft et ensuite Amazon avant d'être directeur technique d'un des premiers constructeurs automobiles. Donc ça vous donne l'importance de cette composante logicielle maintenant dans des industries qui étaient plutôt orientées hardware traditionnellement.
Et en termes de méthode de travail, est-ce qu'il y a aussi une évolution de ce côté-là?
Voilà, donc là aussi, il y a un trend, une tendance qui est assez importante. Donc dans le logiciel, on a l'habitude de travailler en méthode agile. Donc ça veut dire que le cycle est continu ou l'amélioration est continue. Alors que dans le hardware, vous faites un plan, vous produisez la pièce et puis ensuite la pièce est produite. Et on voit qu'en fait aujourd'hui, de plus en plus, même dans le hardware, on commence aussi à avoir cette méthode agile qui s'introduit pour rendre les produits plus performants et plus évolutifs. Autre exemple qui est plus lié en fait à l'interaction entre les sociétés et comment elles collaborent pour créer un produit. Typiquement, c'est le CEO de Ford qui donnait un interview et qui poser un peu la situation actuelle et la situation passée. Donc ils ont compris que la composante logicielle était importante au moment où ils avaient plus de 250 sous-traitants qui apportaient chacun une brique logicielle différente avec une ligne de code différente. Et à la fin, donc le CEO de Ford dit à la fin je mets quand même le logo Ford sur ma voiture, quoi, mais je maîtrise pas complètement la chaîne de bout en bout. Donc Ford a décidé de réinternaliser cette partie logicielle. Et donc de plus en plus, on a des sociétés qui créent ce qu'on appelle une software house. L'exemple aussi récent, c'est Renault qui a créé la société Ampère qui va gérer les véhicules électriques du constructeur.
Donc au travers finalement de tous ces exemples, on réalise à quel point il ne s'agit pas juste d'enjeux technologiques, mais bien aussi des enjeux d'organisation et à l'échelle finalement de l'écosystème complet.
Ouais.
Alors justement, comment PTC accompagne les industries dans ce changement?
L'objectif de PTC, c'est de pouvoir apporter des solutions logicielles. Donc la solution logicielle qui est complètement adaptée à ce type de problématique, c'est Codebeamer. Et donc, ça permet justement de garder la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, du cahier des charges jusqu'à la livraison et ensuite la maintenance du produit. Vous allez pouvoir garder la traçabilité entière de ce qui a été développé à l'intérieur de votre équipement.
D'accord. Donc, cette solution CodeBeamer dont vous parlez, elle est un peu le registre, en fait, du logiciel embarqué, si j'ai bien compris.
Exactement. Un registre dynamique puisque chaque changement est tracé. Donc, il y a ce qu'on appelle des trackers. Vous pouvez aussi voir l'impact de votre changement. Donc, avant de faire un changement de ligne de code, quand vous avez une spécification, vous allez voir cette spécification, elle est aussi liée à l'équipement A, à l'équipement Z, au logiciel B. Forcément, quand vous allez changer cette ligne de code, il va avoir un impact sur le reste de l'équipement. Donc c'est évidemment nécessaire et c'est même obligatoire pour certains équipements. Donc on a parlé de traçabilité. Au-delà de ça, c'est un outil qui permet aussi de pouvoir travailler ensemble en mode collaboratif. Donc de plus en plus les projets typiquement dans l'automobile dont on a pas mal parlé. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir un constructeur automobile travailler de concert avec un fabricant de microprocesseurs parce que le microprocesseur va permettre justement à un véhicule d'être plus intelligent, plus smart. Et donc, quand ils travaillent en commun sur ce type de projet, l'outil CodeBeamer permet de savoir qui a fait quoi, quand, comment. Ça permet aussi de protéger le cas échéant une propriété intellectuelle, puisque vous pouvez savoir qui agit sur la ligne de code ou le logiciel. Donc c'est vraiment important aussi pour les équipes, donc que ce soit l'équipe software, que ce soit l'équipe hardware ou l'équipe qualité, de savoir qui a fait quoi et comment. Et pour l'équipe qualité, il y a un gain de temps évident, puisque grâce à l'outil CodeBeamer, vous pouvez sortir un rapport, sortir un document d'audit ou de contrôle qualité beaucoup plus rapidement que si vous n'êtes pas outillé. Donc, gain de temps, gain de productivité, un meilleur time to market, puisque la finalité de tout ça, c'est de pouvoir sortir des produits beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Ouais.
On a parlé de ces systèmes embarqués qui étaient critiques, donc j'imagine aussi en termes de réglementation, peut-être que la solution CodeBeamer apporte son petit plus.
Oui, tout à fait, parce que vous avez des templates donc qui correspondent aux standards des industries dans lesquelles vous travaillez. Donc on a des templates pour l'automobile, on a des templates pour la cybersécurité, on a des templates pour les dispositifs médicaux ou même pour la production de médicaments. Tous ces templates sont livrés avec la solution et vous permettent rapidement de pouvoir être conforme à la réglementation en vigueur. Et donc, en plus d'être conforme à la réglementation, ça vous permet aussi, bien entendu, de faciliter les audits internes ou externes.
Alors, tout au long de notre échange, on a pu découvrir que finalement, les enjeux technologiques sont assez importants, qu'il y a une vraie course à l'innovation entre les différents acteurs pour faire de ces technologies embarquées qu'elles soient toujours beaucoup plus performantes. Justement, en termes d'innovation, quelles sont les innovations récentes ou celles à venir ?
En termes d'innovation, je pense que vous avez peut-être regardé les événements marquants du CES qui a eu lieu en début d'année. Donc, il y avait une place assez prédominante de l'automobile avec des constructeurs comme Valeo qui ont présenté pas mal d'innovations. Donc, pouvoir piloter son véhicule à distance, de pouvoir aussi détecter plus facilement des obstacles, voire des comportements. Donc là, en l'occurrence, c'est un logiciel qui vous permet d'anticiper le comportement d'un cycliste. Donc, je pense que ça parlera aux Parisiens qui nous écoutent et d'autres à d'autres villes. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi qui est plus dans la vie quotidienne. J'ai trouvé intéressant, c'est vous avez des smart poussettes, donc des poussettes intelligentes qui vont vous permettre de localiser votre poussette, d'avoir une assistance électrique et là aussi un détecteur d'obstacles qui vient se rajouter à un équipement qui était plutôt basique.
Donc, toutes ces innovations laissent un peu songeur et perplexe quand même parfois. Bon, en tout cas, merci beaucoup Xavier de nous avoir plongé dans les arcanes des systèmes embarqués. où se joue beaucoup plus que le perfectionnement d'un logiciel informatique, nous assistons actuellement à une refonte des modes de production et d'organisation dans ces industries marquées par le logiciel embarqué. Et finalement, PTC avec Codebeamer se trouve au cœur de cette transformation.
Merci.
On se retrouve rapidement pour un nouveau podcast sur les industries du futur et ceux et celles qui contribuent à leur transformation.